Très bien, nous sommes dans Néhémie chapitre 6 et on a lu les versets 1 au verset 9.
10.
Jusque, on va commencer 10 tout à l'heure, mais on a fini le verset 9. Et donc on parle ici au chapitre 6, c'est les problèmes qui viennent de l'extérieur, les ennemis. Là, ils avaient essayé au chapitre 4 d'attaquer, chapitre 4. Chapitre 4, ils avaient essayé par la violence, mais ayant été avertis de leurs intentions par certains, les travailleurs sur le mur, Néhémie le premier, se sont équipés d'armes pour être prêts à se défendre en même temps que de travailler quand il n'y avait pas d'attaque. Donc ça n'avait pas réussi, ça avait échoué. Donc là, ils s'y prennent d'une autre manière. Là, c'est un peu plus la ruse, la tromperie. Alors, il leur envoie un messager et le moyen de leur envoyer un messager n'était pas limité. On sait que malheureusement, il y avait beaucoup de ces ennemis-là qui avaient marié... et qui avait marié des filles des Juifs de Jérusalem. Et il y avait malheureusement à ce niveau-là la faiblesse là, des Juifs qui avaient laissé leurs filles se marier à n'importe qui, incluant ceux qui haïssaient les Juifs. Et donc le message est envoyé, donc viens, ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. Et bien sûr, ça a l'air sympathique, mais c'était dans le but de leur monter un guet-apens, faire du mal. Et donc, il n'y répond pas. Il y répond, mais dans le négatif, non, on ne peut pas continuer à arrêter de travailler pour venir vous voir. Là, Proverbe 14:15 dit, l'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Version Darby, c'est dit le simple croit toute parole, mais l'homme avisé discerne ses pas. Donc, on sait qu'il y a de la tromperie dans ce monde, on doit être vigilant. Dieu nous demande de même vérifier, voir si l'exactitude de sa parole, si moi ce que je dis est conforme à sa parole. Tous les prophètes qui étaient vraiment de Dieu, dans Deutéronome 13 et 18, il avait donné des critères pour savoir si c'était des vrais prophètes. Pourquoi il y avait des faux? Il fallait qu'il y ait des critères, autrement on ne saurait pas. N'importe qui se lève et dit « je parle au nom de Dieu », il faudrait qu'on le croie, au cas où. Mais non, Dieu a fait que le prophète, il dit toujours ce qui se passe, jamais d'erreur, de prophétie, 100% de tout ce qu'il dit arrive. Et il s'accorde avec tout ce qui a été dit avant lui. Donc il y a une suite de parler du Dieu vivant, du Dieu créateur. Néhémie n'est pas naïf. Il sait que ceux-là, ils ont cherché à leur faire du mal. Ils ne sont pas fiables dans leurs paroles. Et donc, il voit très bien venir la chose. Il dit non, on ne peut pas interrompre notre travail. Proverbe 22:3, l'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. Les simples, ils avancent sans faire attention. Le prudent, il voit, il fait attention là où ce qui marche. Il y a un lien fondamental entre la tromperie et la haine. Pouvez-vous penser à Satan? Deux caractéristiques de Nathan, de Satan. Pardon. Qui sont reliés. Deux caractéristiques de Satan qui sont reliés dans Jean 8. Et c'est les deux qui commencent par un M.
Menteur.
Et
meurtrier.
Père du mensonge. Menteur et meurtrier. C'est ça. Le mensonge et la tromperie, ça va ensemble. Toujours, toujours, toujours. On n'a pas à cœur l'autre personne, dans le minimum, mais souvent, c'est pour tromper l'autre personne ou pour lui faire du mal qu'on lui ment. Donc, il ne s'est pas fait avoir. Celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses et celui qui répand la calomnie est un insensé. Donc, les fausses amitiés et les fausses paroles flatteuses, là, ça trompe. Proverbe 26, 24, par ses lèvres, celui qui hait se déguise, et il met au dedans de lui la tromperie. Lorsqu'il prend une voix douce, ne le crois pas, car il y a 7 abominations dans son cœur. S'il cache sa haine sous la dissimulation, sa méchanceté se révélera dans l'assemblée. Donc, soyons pas naïfs. Si ton voisin, la Bible dit dans Proverbe, si ton voisin te loue haut et fort de grand matin, ne le crois pas. Moi, j'en ai déjà parlé à des gens là que c'est comme des fleurs, puis des fleurs et des fleurs. Et là, tu te dis, là, OK, je vais juste attendre de voir la vraie intention de ce qui se passe parce que, il y a de quoi. Hein? Quand on embellit et qu'on flatte, on flatte, on flatte, ce n'est pas des bonnes intentions en arrière de ça. Donc, soyons pas naïfs. Donc, la persévérance est la solution. Et il a persévéré à travers quand même la tâche, malgré cette tromperie. Ensuite, verset 11, « Je me rendis chez Shemaja, fils de Delaja, fils de Mehetabeel. Il s'était enfermé et il dit, « Allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer. C'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. » Alors là, c'est quelqu'un de l'intérieur. Ils ont réussi à lui faire dire à quelqu'un de Jérusalem ces choses-là. Mais, 12, verset 11, « Je répondis, un homme comme moi prendre la fuite, et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre ?» Donc, deux choses. Il était responsable. Ce ne sera pas lui qui fuira. Il était un dirigeant. Il ne va pas abandonner son peuple. Mais deuxièmement, ce n'était pas comme moi, je suis important. Je ne vais pas fuir parce que je suis important. Parce que d'une autre perspective vis-à-vis de Dieu, mais qui suis-je? Qui suis-je, moi? Pour aller dans le temple, me cacher dans le temple, ce n'est pas n'importe qui peut rentrer dans le temple. Et alors, l'humilité. L'humilité, d'ailleurs, ça prend la vraie humilité pour bien diriger. Okay? Quelqu'un qui n'a pas l'humilité ne dirige pas bien. Il va profiter de sa position pour tirer avantage. Et aussi, il va être le premier à fuir quand il y a un danger parce que ce n'est pas le peuple qu'il a à cœur. Il tire avantage du peuple. Donc l'orgueil n'est pas une bonne caractéristique non plus pour les dirigeants. Et dans ce monde, il y a beaucoup de dirigeants qui sont pleins d'orgueil. Et c'est triste. Donc ici, il a dit, ben moi, ce n'est pas moi qui va courir. Qui suis-je là pour courir? Ben, je suis un dirigeant. Mais pas orgueilleusement, parce qu'ensuite il dit, et qui suis-je pour entrer dans le temple? Et, non, je ne peux pas, je ne suis qu'un simple homme. Donc, l'humilité et sa bravoure, son sens de responsabilité fait qu'il allait faire face au danger. Mais, plus que ça, verset 12, donc, je n'entrerai point, et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. Mais il prophétisa ainsi sur moi parce que Sanballat et Tobija lui avaient donné de l'argent. Alors il a découvert, pas longtemps après, il s'est fait payer, c'est pour ça. Mais avant même qu'il apprenne que c'était pour de l'argent que la personne a dit ça, il avait déjà refusé d'y aller. Alors la protection, ce n'est pas de connaître un petit peu tout ce qui se passe en arrière-plan. Parfois, on ne pourra pas savoir ce qui se passe en arrière-plan. Mais sa protection était vis-à-vis de ce qui était dit au devant. La personne dit, vite, cachons-nous dans le temps parce qu'il vient de te tuer. Et là, tu te dis, attends, c'est pas juste. Premièrement, en tant que dirigeant, je ne devrais pas faire ça. Mais deuxièmement, qui suis-je pour entrer dans le temple? C'est pas Dieu qui t'envoie. Et là... Déjà, le fait qu'il savait où ce qu'il s'en allait, il savait qu'il était en règle avec Dieu, il avait une bonne conscience, et donc il n'a pas écouté. Il n'était pas dupe. Il voulait, les ennemis voulaient l'effrayer. Verset 13, « En le gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur, et que je suivrais ses avis et commettrais un péché, et ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir » d'opprobre. Souviens-toi, mon Dieu, de Tobija et de Sanballat et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Noadia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. Donc, pas les vrais prophètes ici, mais des personnes qui auraient dû savoir mieux, mais qui se mettent du bord de des ennemis. Pourquoi? Pour se faire payer. Donc, ce n'est pas tout le monde même qui se dit chrétien qu'il faut faire confiance. On doit user de discernement et ne pas être dupe et connaître la vérité. Lui, il devait savoir à qui c'était donné de rentrer dans le temple ou pas. Il devait le savoir, il avait fait ses devoirs, il avait vu. Ok, non, c'est pas moi de rentrer dans le temple. Donc, il connaissait, il avait fait ses devoirs. S'il n'avait pas fait ses devoirs, il aurait dit, ok, il allait se cacher là. Bah, ouais. Mais il avait fait ses devoirs, il connaissait la vérité et il avait une conscience pure devant Dieu. Et il savait là qu'il voulait l'effrayer sur des fausses bases. Ensuite, la muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Elul, et en 52 jours seulement, ça c'est vraiment pas longtemps. Mais tout le monde s'est mis à la tâche à l'intérieur de la ville, chacun a fait devant ses choix chez soi, et ça a avancé jusqu'à ce que ça soit fini en 52 jours. Lorsque tous nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Dans ce temps-là, il y avait aussi des grands de Juda qui adressaient fréquemment des lettres à Tobija qui en recevaient de lui. Alors imaginez-vous des dirigeants à l'intérieur de Jérusalem qui avaient un rapport avec Tobija. Car plusieurs en Juda étaient liés à lui par serment parce qu'il était gendre de Shekania, fils d'Arak, et que son fils Jocanan avait pris la fille de Meshulam, fils de Berekia. Donc, justement, les alliances de mariage, ça fait souvent fermer l'œil au principe de qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui est bien. Mais ne laissons pas les questions de famille influencer notre décision de prise de position sur ce qui est bien ou mal. Que ce soit mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, mes enfants, à un moment donné, si ça vient à ça. Mais peu importe qui m'encouragerait à faire le mal, non, on fait ce qui est juste. On fait ce qui est bien et on ne doit pas laisser les relations familiales, comme il se faisait ici, commencer à faire des compromis. Donc, verset 19, il disait même du bien en lui, de lui en ma présence. Et il lui rapportait mes paroles. Tobija envoyait des lettres pour m'effrayer. Et donc, un peu invraisemblable, mais dans le christianisme, sachons-le, il y en a qui vont faire des compromis et vont travailler avec l'ennemi. C'est pas autant les problèmes de l'extérieur, mais les problèmes de l'intérieur, des faux frères, des personnes qui se disent prophètes, des personnes qui se disent de Dieu, qui s'infiltrent dans les églises et qui changent les bons enseignements. Et c'est ce que Paul disait, d'être vigilant. Et c'est là le problème, hein. Il y a beaucoup d'églises qui peuvent peut-être prêcher l'évangile, il y en a beaucoup qui ne prêchent pas l'évangile. Mais il y en a beaucoup qui prêchent l'évangile, mais ils ne sont pas vigilants. Et là, dans Actes chapitre 20, verset 28, Paul il s'adresse aux dirigeants de l'église d'Éphèse, aux pasteurs, aux diacres, aux anciens de l'Église. Les pasteurs étaient les anciens de l'Église. Verset 28, il dit « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, surveillant, pour paître, d'où vient le terme pasteur qui paie, qui nourrit le troupeau, pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses. » Donc, du milieu de vous, Paul est parlé à un groupe d'anciens, un groupe de pasteurs dans l'église d'Éphèse, et de leur milieu allait susciter une personne qui allait enseigner des choses pernicieuse pour entraîner des disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Donc, comme ici à Jérusalem, 400 ans avant, Paul, eh bien, de l'intérieur, il y avait des personnes qui travaillaient avec les ennemis pour et qui donnait place aux ennemis dans leurs mauvaises intentions. Donc ne soyons pas dupes, soyons vigilants même de ce qui se dit et de ce qui se fait de l'intérieur du christianisme. Donc là, il y a peut-être 3-4 mois, on avait vu l'exemple de Philémon Vincent, qui était là, je ne sais pas si vous vous rappelez. C'était un pasteur baptiste qui était né dans une famille qui s'était convertie, les parents s'étaient convertis en tant qu'adulte, mais lui, et puis il était devenu pasteur, le monsieur est devenu pasteur. Et ce jeune homme-là, il a grandi là-dedans, mais très vite, il avait ses propres idées, ça commençait à être populaire de penser que Dieu a utilisé d'une façon naturelle les choses pour se révéler. Donc la Bible n'est pas tout à fait un miracle, c'est simplement les écrits de l'homme que Dieu a dirigé un petit peu de loin. Puis il y avait des erreurs, mais il est devenu un pasteur très important dans le mouvement des églises baptistes françaises et même dans la direction de l'Union baptiste. Et de l'intérieur, c'est de l'intérieur. Donc, on avait vu ça, la plupart des églises étaient inconfortables un peu avec sa théologie, mais jamais au point de dire non, tu n'es même pas. Regarde ce que tu écris. On n'est peut-être pas là à ton église quand tu prêches, mais regarde ce que tu as écrit, parce qu'il avait publié des études. Et ces études et ces écrits étaient parsemé de fausses doctrines et de faux évangiles, et donc ce qui donnait un faux évangile. Là, les gens dans les autres églises auraient dû être vigilants, parce que l'ensemble de l'église, les églises, et là, il y a des conseils des églises évangéliques aujourd'hui qui dérivent de tout ça, qui ne sont pas plus vigilants. Et donc, l'appel à la vigilance, comme Jérémie était vigilant, pour vraiment voir à ce que le travail continue, basé sur la vérité, et ne s'arrête pas. Donc, il y a certains rapports qu'on peut voir avec Néhémie, mais là, spécifiquement, acte 20, on doit être vigilant, parce que beaucoup d'églises ne font pas attention aux saines doctrines et à la vérité. On va prier. Seigneur Dieu, merci pour ta parole, merci pour l'exemple de Néhémie qui a vu à travers la tromperie et Seigneur n'a pas été naïf et n'a pas non plus eu peur, pris peur, et il s'est confié dans sa responsabilité et dans ce qu'il était vis-à-vis de toi et a reconnu que c'était des moyens trompeuses pour lui faire faire des choses mauvaises, pour que sa réputation puisse être ruinée et l'opportunité de vraiment diriger puisse être diminuée. Et donc, merci pour son exemple et d'être vigilant et sage, prudent. On te prie au nom de Jésus. Amen.